RTL l'équipe, Carrément Moteur, Christian Pasquet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une heure d'actualité. L'actualité des sports mécaniques, commentée, analysée, peut-être raillée. En tout cas, un gros programme aujourd'hui. Vous l'avez vécu avec nous la semaine passée, il y avait les 24 heures du Mans, il y avait le Grand Prix du Canada, il y avait le Grand Prix de Grande-Bretagne, c'était de la moto. Et ce week-end, il y a le rallye de Grèce, septième manche du championnat du monde. Nous y rejoindrons Jérôme Bourret, qui sera nos yeux et nos oreilles. Voilà. Mais pour, bien évidemment, discuter de toute cette actualité, à ma gauche, Bruno Scagliotti. Salut Bruno.
Salut.
À ma droite, Gilles Della Posta.
Salut Christian, salut Bruno.
Messieurs, bonjour, ça bienvenue, ça va les gars, on va reparler de plein de choses. On a pas très loin de nous, grâce aux ondes, François Doré qui est là. Salut François.
Bonjour Christian, bonjour les copains.
Salut François.
Ça va mon bon François, vous avez récupéré?
Difficilement.
Ah bah oui, c'est plus de notre âge. Hein.
J'ai passé l'âge de ces conneries, si vous me permettez l'expression.
Je suis d'accord avec vous. C'était de sublimes 24 heures du Mans.
Oui.
13 secondes d'écart à l'arrivée entre une Audi et une Peugeot. Nous y reviendrons en fin de première demi-heure. Et tout de suite, eh bien, on va aller du côté de la Grèce pour évoquer le championnat du monde des rallyes. C'est le rallye de l'Acropole et ça va être chaud au propre comme au figuré. Ça va être chaud bouillant sur la piste car on le sait, la Grèce ne fait pas de cadeaux.
RTL l'équipe, le rallye.
Messieurs, tout de suite là, comme ça, je vous donne les infos. Il y a eu deux épreuves spéciales ce matin. Oh bah oui, on est en plein sur Taki là, ok. C'est François Lavigne qui pilote l'émission, on dénonce, allons-y. La première épreuve spéciale, 23 km ce matin, Peter Solberg, meilleur chrono, devant Latvala, 5 dixième, Novikov 5 secondes 3, Wilson 6 secondes 2, Hirvonen 6.4, Ogier 6.7, Otsberg 7.5, Loeb est plus loin, 10 secondes 2, il y en a eu une deuxième épreuve spéciale, messieurs, un peu plus longue. C'était 39,1 km, Peter Solberg avait là encore établi le meilleur chrono devant Latvala. Alors là, Solberg, sur la numéro 2, il a mis une fessée à tout le monde. Ça va nous être confirmé dans un instant par Jérôme Bourret. Peter Solberg, meilleur chrono. Je disais, Latvala 2 à 19 secondes 8. Hirvonen, troisième chrono, 20.1. Loeb, quatrième chrono, 21.9. Et Ogier, encore plus loin, 27.5 au général. Pour l'instant, Peter Solberg est leader devant Latvala, 20 secondes 3. Hirvonen, 26 secondes 5. Et Loeb, 32.1. Ogier, 34.2. Mon cher Jérôme Bourret, vous êtes en Grèce. Bonjour.
Calimera, salut à tous.
Oh, ben ça y est.
Calimero aussi.
Calimero à toi-même, et sois poli s'il te plaît.
C'était au Mans la semaine dernière, Calimero.
Ouais. Bon. Monsieur Jérôme. Pardon, salut. Monsieur Jérôme, il fait beau chez vous?
Oh, il pleut des cordes. Non, je déconne. Je suis au bord de mer, il fait super beau, 30 degrés. On est pas mal.
Non, mais je vous pose la question.
C'est très chaud pour les équipages.
Ouais, je vous pose la question parce que j'ai lu ici ou là qu'on annonçait un peu de pluie, vrai ou pas?
Non, il a plu ces derniers jours, ouais. Il a plu en début de semaine. Là, c'est grand soleil, pas un nuage. Malheureusement, pour les équipages Citroën, c'était entièrement sec ce matin. Mm-hmm. Et donc, vous l'avez vu sur les classements, ils ont peiné. Il y a eu beaucoup de balayage, une petite crevaison pour Sébastien Ogier et puis de la chaleur. On a vu un Julien Gracia, notamment, assez marqué par l'effort. À la peine, même, je dirais. Là, je suis à l'assistance, à la mini-assistance de la mi-journée, puisque les pilotes feront la journée seulement avec un changement de pneus qui est en train d'avoir lieu. Et j'ai Daniel Elena qui est en train de se rapprocher de moi, donc dès que je vois qu'il est dispo, j'essaie de vous le passer pour qu'il vous raconte un peu de l'intérieur comment ça se passe.
Avec grand plaisir, mon cher Jérôme, vous nous faites signe quand vous voulez. Vous venez de le souligner, ce rallye, les garçons, c'est un rallye dont la réputation est d'être dur pour les mécaniques et dur pour les hommes aussi, Gilles. Hein.
Oui, alors c'est peut-être plus, mais ça il faudrait peut-être davantage demander à François Doré, c'est plus l'Acropole qu'on avait connue et qui était vraiment très 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 sélectif de ce point de vue-là, mais ça reste un des rallyes effectivement les plus compliqués. Puis la chaleur, ça reste le problème numéro un pour les équipages, parce que on lutte pas contre la chaleur, parce qu'il n'y a pas de climatisation dans la voiture, hein, ça mange de la puissance et la puissance on en a besoin, donc il n'y en a pas, point.
La chaleur et le balayage, hein, c'est pour ça que je ne sais pas si les très bons résultats. Le résultat de Solberg en début de rallye, c'est un petit peu comme toujours.
Ah bah
Solberg
que...
au début de rallye, il met une race à tout le monde et puis à la fin, soit il sort, soit il est derrière.
Messieurs, breaking news.
Ouais, breaking news.
Si vous permettez,
Ouais.
Allez, je vous passe Daniel Elena qui va vous dire comment ça se passe dans la voiture depuis ce matin.
Bon, ok. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Daniel en direct dans Carrément Moteur sur RTL l'équipe. Daniel, deux épreuves spéciales assez longues ce matin et comme d'habitude, c'est chaud sur la route, c'est chaud dans l'habitacle aussi.
Bah, c'est chaud partout. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait très très chaud et à grand soleil. On est enfin en Grèce, c'était pas le cas les trois derniers jours parce qu'il pleuvait, mais les routes ont beaucoup séché, donc on aurait espéré que ça soit humide, mais en fait non, c'est tout sec et on balaye bien, quoi.
Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, Daniel, quand on regarde les premiers chronos, bon, vous n'êtes pas si mal à 30 secondes de Solberg, mais relativement proche de Latvala Hirvonen et devant Ogier, ça balaye beaucoup.
Ouais, ça balaye énormément. Je pense que ce matin, il y a que Solberg qui a exploité sa position sur la route et il le fait très bien puisqu'on voit les écarts 30 secondes. Après, c'est vrai que c'est serré avec les autres, mais on donne tout ce qu'on a. On essaye de limiter la casse pour voir pour demain. Mais il y a encore 4 spéciales à faire, dont 3 encore à balayer.
Gilles.
Moi, je voulais savoir, Daniel, d'abord, bonjour.
Salut.
Je voulais savoir justement quelle est l'ambiance dans la voiture quand on est dans ces circonstances-là. Est-ce que Sébastien, bon, j'imagine avec son expérience, c'est prendre du recul ou est-ce que quand même ça l'agace? Est-ce qu'il y a quelques petits mots qui lui échappent de temps en temps?
Bah, ce matin, dans la première, il dit on est stoppé, ça l'a gâché, ouais. Mais j'ai dit t'en fais pas, c'est normal. J'ai essayé justement de le calmer parce que ça sert à rien d'en rajouter. On sait très bien qu'on peut rien faire à la régulière, donc on peut que subir, quoi.
Bueno.
Oui. Est-ce que justement ça vous arrangerait pas, Daniel, si Solberg à la fin de la journée restait leader?
Bah, bien sûr, ça nous arrange.
Ah ouais.
Mais maintenant, il est derrière, c'est lui qui prendra sa décision, c'est un grand bonhomme.
Ouais.
Nous, on ne peut rien faire, on est devant.
François, vous avez peut-être une question pour Daniel.
Oh, bah, non, oui, bonjour Daniel. Effectivement, la Grèce, ça reste toujours un terrain très, très compliqué. Il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de poussière. Non, ça doit être. Est-ce que l'ambiance est respirable quand même?
Ouais, ben pour l'instant ça va. La spéciale, une des spéciales les plus cassantes du rallye, c'est la prochaine. On y va là.
Ouais.
Donc maintenant, ben on va voir. Il va falloir la passer.
Ouais. Les pronostics pour tout ça. Enfin, est-ce que tu sens quand même que la voiture est bien quand même sur le terrain?
Ben pour l'instant, elle va très bien. Je veux dire, vu les temps qu'on a fait en étant premier sur la route, c'est très bien. Maintenant. On va voir.
Oui, justement, Daniel, comme les gens de chez Ford, vous ne pilotez pas. En tout cas, vous êtes à bord d'une nouvelle voiture. Est-ce que...
Je pilote des fois.
Ouais, je sais, Daniel, vous pilotez.
On a vu des images, on a des preuves.
Mais je crois savoir que ce matin, c'est pas vous qui êtes au volant. Mine de rien, la voiture, désormais, vous l'avez l'un et l'autre parfaitement en main. Il y a encore des progrès à faire ou vous avez bien avancé quand même?
Il y a toujours du progrès à faire. Mais bon, c'est vrai que là, la voiture est très bien née, et vu les temps qu'elle fait. Donc, je vais vous relaisser parce qu'il faut que j'aille bientôt pointer.
Bon, allez, alors il faut aller bosser, Danos.
Qu'est-ce
merci.
Qu'il est désagréable, allez, c'est pas possible.
Merci,
toujours
Daniel.
Pris par le temps.
Merci beaucoup, Daniel.
Ciao.
Voilà, les gars, on avait quand même un copilote, cette fois champion du monde, à notre micro. Jérôme, vous êtes nos yeux,
ouais.
Nos oreilles. Jérôme,
je
c'est.
Je suis en train de me rapprocher de Julien Ingrassia pour avoir la version de l'autre type pour MDS3. Ça risque d'être un peu short, je vous demande juste de pas trop l'accaparer, mais il arrive.
Okay.
Je vous passe Julien Ingrassia.
C'est super. Merci beaucoup, Jérôme. Voyez comment ça se passe en direct dans Carrément Moteur. On a des copilotes, champion du monde junior, champion du monde, bref, on n'a que du beau monde. Julien Gracia, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Je sais qu'il est précieux, qu'il faudra aller pointer dans quelques minutes. Julien, un petit bilan sur ces deux premières spéciales du jour qui n'ont pas eu l'air simples. Hein.
Ah non, on s'attendait à une première journée difficile et bon, on est rentré dans le vif du sujet dès ce matin et ça s'avère assez difficile pour nous. La première était... assez sablonneuse de spécial et c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver un bon équilibre avec la voiture. Et ensuite, dans la grande spéciale, presque 40 km à parcourir, on a eu une crevaison en fait à l'arrière gauche à partir du 20e kilomètre. et ça nous a pas aidé non plus à nous mettre en confiance, à réaliser un bon temps, donc on va essayer de se rattraper cet après-midi.
Oui, effectivement, c'est jamais très bon d'attaquer comme ça, mais bon, on vous fait confiance, vous êtes solide. Gilles.
Oui, bonjour Julien, Gilles de la Posta. Petite question, on sait traditionnellement que sur les rallyes où il faut beaucoup balayer, ça ralentit en général sur les fins de journée. L'écart là qui vous sépare de Peter Solberg, 34 secondes, il n'y a rien de catastrophique encore?
Ah non, il n'y a rien de catastrophique parce que il y a des spéciales demain, on va s'attendre à des morceaux, quoi. Regardez attentivement la spéciale 8, je pense qu'il y aura des surprises. Beaucoup de pierres en châssis qui vont faire mal aux voitures, qui vont éprouver les équipages aussi. Donc 34 secondes, il a quand même réussi à creuser un bel écart dans la grande, donc il faut lui dire un peu le chapeau aussi. Après, je pense qu'il a dû prendre pas mal de risques et sur un rallye aussi dur que l'Acropole. Effectivement, pour répondre à votre question, quoi, la dernière spéciale de la première journée, en fait, habituellement, on peut assister à des tactiques ou des stratégies. Ce soir, je sais pas à quoi on va assister parce que je pense qu'il vaut mieux marquer récupérer des secondes dès ce soir plutôt que d'en lâcher, quoi. Donc, dernière soir, on se rappelle ce soir. Allez, je vous laisse, je vais y aller.
Ok, salut Julien, merci mille fois. Merci beaucoup. Et voilà, alors on a eu les avis des deux copilotes de chez Citroën, Daniel Elena, qui est copilote de Sébastien Loeb, et Julien Gracia, copilote de Sébastien Ogier.
Un peu plus dans la course, hein, Julien, que
ouais,
Daniel.
Ouais. Daniel qui arrive à prendre un peu de recul sur les événements. Jérôme, comme le disait Gilles, bon, pour Sébastien Loeb et pour Sébastien Ogier, 32 et 34 secondes, là, aujourd'hui, à la mi-journée. Rien n'est joué, ça va être chaud bouillant jusqu'à la fin. Hein.
Ouais, enfin 32, 34, c'est pas grand-chose, mais ils ont fait que deux spéciales.
Ouais, ça marque, c'est vrai.
Ouais, et contrairement à d'autres rallyes, on repasse pas dans les mêmes spéciales cet après-midi, mis à part une. Donc, ils vont encore balayer cet après-midi. Ça peut faire une minute ce soir sur un Solberg déchaîné comme il est là. Mmh. Alors, rien ne sera perdu, mais une minute, ça commencerait quand même à faire gros. Voilà, petites indiscrétions de l'assistance, problème d'électronique sur la voiture de Sébastien Loeb. C'est-à-dire qu'il a parcouru les derniers kilomètres de la longue spéciale sans affichage. Donc, il savait pas dans quel rapport de boîte il était, il savait pas quel était son régime moteur. Donc, ça a été un peu chaud. Là, il n'y a pas d'assistance. Donc, ils ont fait un petit reset.
Ouais.
Donc, visiblement, ça fonctionne. À voir. Il a lui aussi crevé dans les derniers kilomètres de la grande. Donc, cet après-midi, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a beaucoup à perdre cet après-midi, mais pour tout le monde, hein, pas spécialement pour les deux sets de Citroën.
Alors, bon.
Et aussi, impression visuelle étrange, c'est l'équipage Ogier Ingracia qui a l'air de beaucoup souffrir de la chaleur.
Ah oui.
Là, je regardais Julien Ingracia pendant qu'il vous parlait, il est pâle, il y a des grosses gouttes de sueur partout. Il semble un petit peu fébrile.
Mmh. En tout cas, on le sait, hein, difficile pour les hommes et pour les machines, ce rallye. On se souvient aussi.
Et pour les journalistes.
Hein. Oui, bien sûr, Jérôme.
On va vous plaindre.
C'est dur aussi.
Dans la piscine, oui, sûrement.
Le petit pépère, attends, il est à Louzo depuis 7 heures du mat, lui.
Bruno, sort ton violon, on va lui jouer la Traviata.
C'est ça. En tout cas, pour Loeb, évidemment, le challenge est de taille parce que, effectivement, bon, il y a déjà du retard dès ce matin, ça va être compliqué, mais il faudra marquer de gros points. On sait qu'Ogier a envie d'effacer un petit peu la bévue de l'Argentine.
Et l'envie, il a intérêt surtout.
Oui, et puis il y a aussi deux pilotes chez Ford qui ont bien envie de recoller au peloton. Et puis, Jérôme, il y a aussi Peter Solberg qui, depuis le début de la saison, fait des coups d'éclat et puis qui sont souvent, hélas, des coups pour rien parce que derrière ça casse ou la mécanique casse ou l'homme sort un petit peu. Et pourtant, on le sait, Peter Solberg, c'est quand même un garçon qui est capable de faire de grands numéro comme il l'a fait ce matin.
Ouais, et puis voilà, c'est une idée. J'ai tellement de tuiles depuis le début de l'année que je lâcherai rien aujourd'hui parce que même avec 1 minute 30 d'avance ce soir, je serai jamais tranquille. il m'en tombe une sur la gueule à chaque rallye. Donc autant que j'essaie de prendre le plus d'avance possible au cas où demain, crevaison, panne de direction assistée, enfin tout ce qui a pu lui arriver depuis le début de l'année. Donc je pense qu'il ne faut pas. Il ne faut pas s'attendre à un coup tactique de sa part ce soir. Ce sera un bloc jusqu'à l'arrivée.
Mmh. Jérôme, si vous me permettez. Juste une petite question quand même. Là, sur la deuxième spéciale, c'est vrai qu'elle était longue, elle faisait 39 km. Mais quand même, Solberg n'aurait-il pas fait le même coup qu'au rallye d'Angleterre il y a quelques années? Il n'a pas trouvé une coupe quelque part pour mettre au moins 20 secondes à tous les autres?
Ah non, visiblement. Bon, les autres ont eu des petits soucis. Deux crevaisons du côté de Citroën, plus la panne électronique sur la voiture de Loeb. Et puis voilà, il a clairement il a pété les plombs, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il a pris maximum risque parce que la spéciale qui arrive est très cassante. Donc son discours, c'est j'ai pris le maximum de risque dans celle qui était les moins cassantes parce qu'on peut se le permettre. Et maintenant, je vais commencer à lever un peu le pied pour prendre moins de risques sur les grosses portions caillouteuses pour pas tout casser. Voilà, sa tactique, c'était vraiment de prendre le large dans les spéciales entre guillemets faciles de ce matin pour soulager un petit peu cet après-midi dans les parties dangereuses.
Gilles.
Oui, moi, on n'a pas encore prononcé le nom d'un homme, c'est Mikko Hirvonen. On rappelle quand même, il est à 13 points seulement de l'Aube.
On n'en parle jamais, Gilles. Au
championnat.
Jamais,
oui, mais on va peut-être finir à un moment ou à un autre, on ne sait jamais, hein, par avoir tort, parce que, je le disais, 13 points seulement de retard sur l'Aube au championnat, sachant qu'une victoire, c'est 25. Pour l'instant, troisième au général, devant l'Aube, devant Ogier, avec juste devant lui, donc Latvala et Peter Solberg. Sur un rallye comme ça, où on ne peut pas toujours demander le maximum de ce que la voiture peut donner parce que il faut l'économiser dans les portions cassantes notamment. Il peut avoir son mot à dire à un moment ou à un autre. Et quand la tuile va tomber sur Peter Solberg,
non, j'ai
ça
pas
va
le droit.
Finir par ça peut finir par jouer. Bah, normalement, Peter Solberg va avoir un problème
et
Jean-Marie va sortir. Donc normalement, Hirvonen, il est bien là.
Jérôme, s'il s'agit d'économiser, oui, c'est pour Hirvonen. Oui.
En tout cas, Jérôme, ce qui est sûr, c'est que ce soir, pas ce soir, mais dimanche, la tête du championnat du monde peut changer, mais ce sera forcément ou Hirvonen ou Loeb. Enfin, si ça change, ce sera Hirvonen et personne d'autre, hein, car l'avance de Loeb sur les autres est conséquente.
Ouais, tout à fait. Ouais. Pour Hirvonen, je suis assez d'accord avec Gilles, mais c'est malheureusement, tout le malheur d'Hirvonen, c'est qu'il est aujourd'hui obligé de compter sur les problèmes des autres. À la régulière, il lui est impossible de venir, sur le plan du rythme, de la pointe de vitesse, de venir chatouiller les autres. Le problème, c'est que contrairement aux autres années où quand Loeb cassait, il gagnait, là, il faudrait que Solberg casse, que Latvala casse, que Loeb casse, que Ogier casse. Donc, on en est presque à attendre un miracle pour que Hirvonen s'impose. À la régulière, il m'en paraît complètement incapable. Il est retombé dans ses travers. Le pauvre, il est monotone, il est triste. Il va pas vite et il sait pas pourquoi.
Voilà, enfin, même quand il allait vite, il était déjà monotone et triste.
Hein. Oh non.
Ouais, je gagne pas, mais je suis là, donc ouais. Sur la durée d'un championnat, c'est et toujours ouais. dangereux. Après,
ouais. Il est deuxième.
Panache, malheureusement, c'est pas génial.
Il est deuxième. Moi, j'ai
il est deuxième, oui, mais quand on demande à Sébastien Loeb quels sont ses adversaires pour le championnat, il va vous citer Latvala, Ogier et Solberg, il ne parlera jamais d'Hirvonen.
Mais ouais. c'est justement pour ça que je dis que le risque, c'est peut-être ça. Il est transparent, au propre comme au figuré, ce garçon-là. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu en vrai, Hirvonen, quand il vous parle, on voit les veines dans son visage. Donc, c'est vrai, il est vraiment livide. Il est presque cadavérique comme monsieur. Mais il est charmant, hein, mais bon, voilà. Et du coup, là, personne ne le voit, mais n'empêche qu'il est qu'à 13 points. De Loeb et il est deuxième du championnat. Moi, j'avais une petite question, dans le contexte, on sait ce qui se passe en Grèce en ce moment. Est-ce que les mesures de sécurité autour du rallye, Jérôme, sont pas renforcées? Parce que moi, j'imagine qu'avec les manifestations qu'il y a, s'il y a un endroit où il faut se montrer en ce moment, c'est peut-être sur le parcours du rallye, non? Il y a pas une ambiance un petit peu particulière?
Il y a une ambiance particulière, mais moi, ce qui m'a plutôt surpris ce matin, c'est l'absence de sécurité autour du rallye. La crise grecque, c'est que tout ce qui est public bat un peu de l'aile. Et donc, j'ai vu aucun pompier, j'ai vu deux gendarmes, alors qu'il y avait des centaines de spectateurs. Il n'y avait pratiquement pas un commissaire de course, là où j'étais en spécial. Après, par contre, sur le plan des manifestants, il faut pas s'inquiéter. Hier, il y a eu une cérémonie de départ à Athènes. Il n'y avait personne.
comme ça, c'est mieux.
Donc il n'y avait pas de manifestants. Voilà, et puis ils savent que quand même le rallye peut apporter quelque chose à leur pays, donc ils n'ont pas envie de tout foutre en l'air non plus. Et puis voilà, c'est une minorité de gens qui manifestent en Grèce. C'est pas les manifestations qu'on peut voir en France. Hein. Ils étaient que 100 000 à Athènes. C'est pas non plus des manifestations monstres, tout simplement, parce que c'est un pays compliqué et qu'il y a beaucoup de gens qui profitent du système, donc ils vont pas aller manifester contre ce système. Voilà, pour faire simple.
Merci mon
donc,
cher.
Rien à craindre de ce côté-là, je pense.
Ok, ben merci beaucoup mon cher Jérôme d'avoir été notre témoin privilégié sur ce rallye de Grèce. Nous avons reçu, vous l'avez sans doute entendu, Daniel Elena, copilote de Sébastien Loeb, cette fois champion du monde, et Julien Gracia, copilote de Sébastien Ogier. Ce rallye, prendra fin dimanche. Mon cher Jérôme, merci. On le rappelle, Solberg est leader pour l'instant devant Latvala et Hirvonen qui sont à 20 et 26 secondes respectivement. Puis les deux Citroën, Loeb à 32 secondes, Ogier à 34. Il n'y a eu que deux épreuves spéciales. Il y en aura quatre cet après-midi. Merci Jérôme, salut.
Je file dans le carnage de l'ES3, à bientôt.
Allez, bon carnage, à bientôt. Allez, on va se retrouver tout de suite.
Bien, on fait course automobile et on fait géopolitique aussi.
Ouais, on est comme ça, nous. Allez, on se retrouve tout de suite après ça.
Tous les vendredis, dès 11h30, c'est Carrément Moteur sur RTL Équipe.
Et maintenant, avec Peugeot, un peu plus de sport dans la publicité.
Vous rêvez d'avoir une ligne plus sportive ? Ça tombe bien. Pendant les jours très sport, profitez d'une reprise Argus plus 2 800 € pour l'achat d'une 206 plus Sportium équipée de jantes alliage et de la climatisation. Et ce week-end, bénéficiez en plus de 3 ans de garantie supplémentaire offerte. Ça, c'est vraiment sport.
Offre réservée aux particuliers dans le réseau Peugeot participant jusqu'au 21 juin 2011. Conditions et véhicules disponibles sur peugeotwebstore.com. Ouverture le dimanche selon autorisation.
Carrément Moteur, l'endurance.
Allez, un petit peu d'endurance, même beaucoup. On a vécu un grand week-end, les garçons, soyons clairs.
Et au Mans, ça se passe bien, la population est calme.
C'était très calme, mais il y a quand même eu, mon cher Bruno, il y a eu très exactement 249 500 spectateurs au Mans ce week-end.
Et ils n'ont pas été déçus.
Ils n'ont pas été déçus, car la course fut belle, elle fut intense, du début à la fin, avec une nuit assez folle, et puis une dernière partie de course. Certes, on avait un peu compris que ce serait compliqué pour les Peugeot d'aller chercher la dernière Audi sur la piste, et Audi a fort bien résisté. On y revient tout de suite, mon cher Gilles. Alors, victoire de l'Audi R18 aux mains de Benoît Trélueyer, Marcel Fassler et André Lotterer. La numéro 2. Alors, super course et super mental de ces trois garçons, ouais. Parce que il y a eu deux gros accidents. Alors, un en début de course, finalement, après 15 tours, hein, celui de McNish, puis ensuite celui de Mike Rockenfeller au début de la nuit. Et on a eu très peur, il y a eu deux gros cartons. Surtout, ça s'est finalement bien fini.
Très sincèrement, la grosse frayeur, c'est surtout la sortie de piste de McNish, qui, à mon avis, on va en parler, mais à mon avis, est totalement imputable à McNish et à lui seul, parce que on ne peut pas demander à un pilote en GT de passer 24 heures à faire les extérieurs de courbe pour laisser passer tout le monde. Il y a un moment où il est obligé quand même de prendre sa trajectoire. Et là, il y avait des photographes qui étaient sans doute à un endroit où ils n'avaient pas lieu d'être, d'ailleurs.
Il a été autorisé, Gilles.
Bah justement, ça cause un petit peu là depuis avant-hier, parce qu'apparemment il y avait eu des consignes pour qu'il y ait personne à cet endroit-là. Donc du coup, bon,
c'est
voilà.
Raté. Hein.
Oui,
et le
problème, c'est que voilà, si la voiture avait tapé 20 secondes plus haut. Si la voiture avait tapé 20 secondes, 20 cm plus haut sur le muret, elle passait de l'autre côté, et là il y avait vraiment un vrai carnage. L'accident de Mike Rockenfeller, si on regarde, les équipages se sont beaucoup plaints pendant les essais des phares, des Audi tout particulièrement, des Peugeot aussi. Ils disaient que c'était tellement fort qu'ils n'arrivaient plus à situer la distance qui les séparait de la voiture qui les rattrapait. Et je pense que la voiture qui a coupé la route à l'Audi ne pensait pas qu'elle était si proche. Penser pouvoir se rabattre pour la laisser passer, justement, et là incompréhension totale, sauf que quand on est au-delà de 300 km/h, ça fait des proportions, ouais, dramatiques.
Bruno. Juste une petite incidente à propos de Mike Rockenfeller, qui est toujours pas rétabli. Vous savez par qui il sera remplacé en DTM ce week-end? On reste en famille, hein, ouais. on reste au Mans, c'est Tom Christensen qui le remplace,
ouais. Ouais, il s'est pas fatigué pendant la course.
Ouais, le pauvre. Non, c'est sûr que Christensen n'a pas roulé du tout. François, vous étiez au Mans, nous y étions. On a vu des choses fantastiques. On a vu une course assez dingue. Alors, on le rappelle, il y avait 13 secondes d'écart à l'arrivée entre l'Audi de Trélueyer, Fassler, Lotterer sur la Peugeot numéro 9 de Bourdais, Pagenaud, Lamy. Et on a vécu notamment un minuit, midi, même minuit, 15h. Où les gars nous ont fait carrément des grands prix.
Oui, on peut dire ça. mais d'accord. Mais disons que la course s'est déroulée, enfin, à mon sens, selon deux ou trois parties, on va dire. En premier lieu, il nous a bien semblé au départ quand même que les Audi étaient très nettement supérieurs aux Peugeot. Au départ, les premiers tours de course ont été très caractéristiques. Les deux Audi devant se sont échappés. L'Audi de McNish ensuite a dépassé la Peugeot, la meilleure Peugeot qui était, enfin celle la mieux placée, c'était celle de Sarrazin. Et là, on s'est dit, à ce moment-là, rappelez-vous, on pense qu'on va voir une parade des Audi, elles vont s'envoler et on n'y reviendra plus jusqu'à la fin de la course. Pendant un bon moment, c'était le cas. Et puis, accident de McNish, dont il est responsable, je suis entièrement d'accord avec Gilles sur le thème. L'accident de Rockenfeller,
Je suis aussi très impressionné par ce qui s'est passé, parce que effectivement, il y a eu une incompréhension du pilote de la Ferrari encore. C'était un duel Ferrari-Audi sur le coup. Mmh. La voiture a été vraiment, mais totalement pulvérisée. C'était, on a sur cet accident particulier, on a eu peu d'images. On a vraiment très peu vu ce qui se passait. Mais le résultat à l'arrivée, c'est que la voiture était complètement pulvérisée. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que lorsque, à la suite de l'accident, Mike Rockefeller a pu sortir tout seul de la voiture, oui. Le temps que les commissaires arrivent, il s'était déjà abrité derrière le rail de sécurité, et les commissaires ne le trouvaient pas. Oui, ils le cherchaient dans la voiture, ils se disaient, mais où est-il passé? Où est le pilote? Enfin bref. Donc la première partie a été quand même très très Audi, et ensuite les Peugeot ont eu un souci avec les pneus durs en particulier qui les ont particulièrement ralentis, et ce n'est qu'au cours de la nuit qu'ils ont trouvé la solution en utilisant uniquement des gommes tendres, ce qui a permis de stabiliser dans un premier temps l'écart. Et ensuite de revenir un peu grâce à une consommation moindre qui permettait de faire des arrêts moins d'arrêts au Peugeot. À l'arrivée, l'Audi gagnante, elle fait 3 ravitaillements de plus que la Peugeot, mais alors le suspense, en fait, il n'y en avait pas vraiment, puisque on a, même si Pagenaud fournissait tous les efforts possibles, et Dieu sait qu'il a du talent, Simon. On a bien vu sur le dernier relais qu'il ne pouvait absolument pas revenir sur l'Audi d'André Lotterer. Donc le suspense, à mon sens, non, pas tant que ça, quoi. C'était Audi de toute façon. Ce sont juste les circonstances de course qui ont fait que le suspense a été, enfin, l'écart à l'arrivée a été aussi mince.
Oui, effectivement, circonstances de course, oui. Parce qu'on l'a vu aussi en termes de visuellement, au moins dans les passages un peu plus techniques, un peu plus lents, ça passait mieux chez Audi, hein, Gilles, c'est clair.
Alors, moi j'ai eu une chance entre guillemets, c'est que comme je n'officiais pas au micro, j'ai pu aller en bord de piste pendant vraiment quasiment jusqu'à 4h du matin. Et les Audi donnaient vraiment, pas jusqu'à 4h du matin, et après il n'y en avait plus qu'une, mais donnaient vraiment une impression de vitesse, de stabilité dans les phases de freinage. Il y a des endroits, le freinage de Mulsanne où il y a une première cassure à droite, oui. Où là la voiture ne bronche pas, alors que du côté de chez Peugeot, très sincèrement, il fallait s'appeler Montagny, il fallait s'appeler Pagenaud, il fallait s'appeler Sarrazin pour vraiment tirer la quintessence de cette voiture. Et sur la longueur, on a bien senti que quand on arrivait à faire un chrono avec une Peugeot, derrière dans l'Audi, on était capable immédiatement de riposter, parce que on avait cette petite marge qui permettait de contrer toutes les possibilités que pouvait se donner Peugeot. C'est assez étonnant de voir que finalement, c'est sur la performance, alors que ces dernières années, Audi avait été dominé en performance pure, oui. par Peugeot, c'est sur la performance qu'a gagné cette année Audi. Le docteur Ulrich a réussi à faire d'une faiblesse une force, et je pense qu'on ne s'y attendait absolument pas chez Peugeot.
En même temps, quand tu écoutes le discours d'Olivier Kennel qui disait l'an dernier, on a cassé, donc cette année, on a misé sur la fiabilité plus que la performance, ça explique un peu, ceci explique un peu cela.
Ah, hein. Mais c'est pas, on est dans une course parfaitement logique. Peugeot, qui n'avait pas réussi à mettre une voiture à l'arrivée, la priorité absolue cette année, c'était d'être à l'arrivée. Les voitures sont toutes à l'arrivée, ce qui n'a pas été le cas chez Audi. Et de l'autre côté, Audi, qui était à court de performance, a réussi à trouver la performance qui lui a manqué ces dernières années.
François.
Juste un petit détail, ouais. Mais il y avait un endroit du circuit où c'était particulièrement flagrant la différence de performance entre l'Audi et la Peugeot. C'était l'enchaînement des virages Porsche,
oui.
Jusqu'au virage du karting.
Ouais.
À cet endroit-là, l'Audi reprenait, si elle était derrière une Peugeot, elle lui reprenait, mais grosso modo 100 mètres en l'espace de 3 virages. C'était absolument énorme.
RTL l'équipe, carrément moteur, Christian Pasquet.
De retour sur la piste, nous avons évoqué dans la première partie de cette émission le rallye de Grèce où pour l'instant Peter Solberg est un solide leader, il dispose d'une bonne trentaine de secondes d'avance sur la concurrence. À suivre cet après-midi 4 épreuves spéciales, et puis il y aura une deuxième journée samedi. Une fin de rallye prévue dimanche aux alentours de 13h. D'ici là, pas mal de kilomètres, pas mal de cailloux et de poussière à avaler pour les concurrents de ce rallye de Grèce, 7e manche du championnat du monde. Nous avons évoqué aussi les 24 heures du Mans avec la victoire Audi. On va y revenir pendant 2 ou 3 minutes encore parce que, messieurs, je voulais qu'on revienne sur... des performances qui ont été bonnes pour certains, moins bonnes pour d'autres. Et puis en fin d'émission, bien évidemment, nous allons évoquer la Formule 1 et cet incroyable Grand Prix du Canada. Et aussi, autre épreuve arrosée, c'était le Grand Prix de Silverstone. C'est de la moto et c'est Stoner qui en a profité. Tout de suite, on reparle du monde.
Carrément moteur. L'endurance.
Oui, messieurs, je voulais qu'on en reparle juste un petit peu quand même pour faire un petit coucou à l'équipe Pescarolo Team qui revenait au Mans. Bon, ça s'est plutôt bien passé jusque dans la matinée quand Emmanuel Collard est sorti de la piste, brisant définitivement la voiture et tous les espoirs de l'écurie. Sinon, jusque-là, ils avaient fait du Pescarolo et du solide, c'est-à-dire qu'on roule à son rythme, on ne fait pas de faute et l'on est finalement au bout du voyage. Derrière les diesels, c'était le premier proto-essence. Ça bataillait avec la Rebellion Toyota. De la casse.
Ouais, ils avaient pris l'avantage.
Absolument. Ils avaient.
Sur la Rebellion,
tout à fait.
Largement.
Ouais, ils avaient pris l'avantage. Et puis, bon, voilà, Manu Collard dans le mur. Je voulais revenir, messieurs, sur une autre écurie. Enfin, ouais. Sur une autre.
Un détail, Christian. Ouais. Quand même, pour dédouaner Emmanuel Collard, il sort au virage Porsche, l'endroit le plus dangereux du circuit. Au moment où il commence à pleuvoir, il n'y a pas de drapeau lui indiquant le changement d'adhérence, donc voilà, c'est pas de chance, juste pas de chance.
Alors, il y a une autre écurie, il y a d'autres voitures dont on a failli parler pendant ces 24 heures du Mans. On en a beaucoup parlé avant, et puis finalement on n'en a pas parlé.
Ah, mais on savait qu'il fallait en parler avant, je sais.
Parce que, pour ce qui est des Aston Martin AMR de Fernandez, AMR, voilà. De Muqueux et tout. Alors, il y a eu 2 tours pour Méric Prima Fernandez, il y a eu 4 tours pour Darren Turner, Christian Klien et Stéphane
Muqueux.
Une
anecdote sublime.
Mon cher Gilles, c'est juste une catastrophe pour Monsieur David Richards.
Hein. Ah oui, mais alors, donc. J'étais sur la grille de départ, j'ai d'ailleurs croisé François, je sais pas si vous y étiez, je vous ai pas vu, mais bon.
J'étais caché, moi.
Ah, d'accord. Et alors, discussion, mais surréaliste, entre Bruno Famin, qui est le directeur technique de chez Peugeot, et Ulrich, c'est Ulrich, je sais plus son prénom aussi, il me semble, Monsieur Baretsky.
Oui, Ulrich Baretsky.
Ouais, voilà, Ulrich, qui est le responsable du développement moteur chez Audi. Les deux hommes, échangent quelques phrases, tout ça. J'étais avec nos collègues de l'équipe, Didier Braillon, Caroline Capitaine, tout ça. Et donc on leur demande, on leur dit, mais alors qu'est-ce que vous pensez de ce 6-cylindres? Et Bruno Famin éclate de rire en disant, nous au départ on a cru que c'était de l'intoxication. Monsieur Baretsky a dit, c'est la preuve que les lois de la physique ne sont pas les mêmes en Angleterre que dans le reste du monde. Voilà, juste pour dire que c'est un choix. En fait, c'est le 6-cylindres en ligne qui a fait ouvrir les yeux, écarquiller les yeux à tout le monde, et tout le monde a dit ça n'est pas possible. Alors en général on dit que ça on a rarement raison face au reste du monde. Là on en a eu la preuve, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Il faut arrêter, il faut faire autre chose.
François, hallucinant qu'ils aient insisté alors que très rapidement début de saison ils avaient compris que ça marchait pas.
C'est assez étonnant parce que bon, on connaît David Richards avec société ProDrive. Il a fait rouler des Subaru avec succès en rallye. Aujourd'hui, il est à la tête du programme Mini en championnat WRC et ça s'est pas trop mal passé, contrairement à ce qu'on pouvait penser sur la première apparition de la voiture. On sait que David Richards a pour habitude d'investir un peu dans le développement de la voiture et puis beaucoup dans sa société. En l'occurrence, pour Aston Martin, là, c'est le contraire. Aston Martin, il est actionnaire d'Aston Martin.
Il pouvait pas se tromper.
L'image d'Aston Martin, il faut absolument qu'il la protège. Or, le résultat catastrophique du Mans, ça va à l'encontre de l'image de marque d'Aston Martin. Donc c'est assez étonnant. Les choix techniques de l'équipe sont absolument ahurissants, en effet. Ouais. Pour parler du 6-cylindres en ligne, c'est un moteur qui développe des phénomènes vibratoires assez importants. C'est pour ça que personne ne se lance dans ce système. C'est pratiquement insoluble à ce niveau de la compétition. Donc vraiment, on ne comprend pas la stratégie employé par Aston Martin.
Oui, c'est très étonnant. En tout cas, pour les fans de l'endurance, le prochain rendez-vous, c'est début juillet. C'est à Imola. C'est les 6 heures d'Imola avec, bien évidemment, le championnat ILMC. Et on le rappelle, hein, c'est ce qu'on se disait la semaine passée à ce même micro. Voilà, il y aura l'an prochain championnat du monde, FIA Endurance. L'accord a été signé. Jean Todt, patron de la FIA, est venu au Mans et l'a
confirmé.
C'est
lui qui a donné le départ, d'ailleurs.
C'est lui qui a donné le départ aussi de la course. Voilà. Ça, c'était pour le Mans. À noter quand même 28 abandons, soit la moitié du plateau. Il y a eu pas mal de sorties de route. Pourtant, la piste était plus que sèche, mais peut-être est-ce que les hommes ont été cherchés un peu plus loin dans la performance lorsqu'ils le pilotaient. Ce sera étudié de près. On va, messieurs, refermer la page endurance et l'on va parler d'une autre course qui fut spectaculaire et auquel on n'a pas tout compris.
RTL L'équipe, la Formule 1.
Oui, parce que pendant
que tellement content d'être là.
Bah, pendant que ça pliait bagages au Mans, du côté de Montréal, les uns et les autres essayaient de fourbir leurs armes. Et puis, mon cher Bruno, la pluie s'en est mêlée, mettant un joyeux bordel, soyons clairs, sur les chaînes de télé et pour l'organisation.
Bah oui, pour l'organisation aussi. Déjà, on a commencé avec ce départ sous safety car alors qu'il pleuvait pas. Puis ensuite, effectivement, il s'est mis à pleuvoir. Ouais. On a arrêté pendant 2 heures. Personne ne savait si ça allait reprendre ou pas. Ils ont dû communiquer en gros pendant 10 minutes et puis après, démerdez-vous. Alors Gilles a une théorie là-dessus qui est pas idiote d'ailleurs. C'est que s'ils annonçaient qu'on prenait 1 heure de retard, toutes les télés se barraient. C'est pas faux. Moyennant quoi, toutes les télés sont restées pendant 2 heures en montrant du vide. Donc je tiens quand même à saluer les commentateurs parce que tenir comme ça 2 heures dans le vide, il fallait le faire. Et puis après, effectivement, on a eu droit à une course assez particulière.
Gilles, au final, avec, on va y revenir, pas mal de choses en course. Alors un début de course où Hamilton s'est à nouveau fait remarquer, décidément. François, vous êtes d'accord avec moi, Hamilton tentait le dépassement qui tente sur Button. Alors c'est Button qui a été puni parce qu'il aurait mis un coup de roue. Moi j'ai trouvé qu'Hamilton, il était franchement audacieux. Il se serait jamais arrêté au virage suivant, il aurait emmené tout le monde.
Comme d'habitude, hein, Hamilton hyper agressif. Là, de toute façon, je pense qu'entre les deux, entre Button et Hamilton, c'est juste un incident de course.
Bah ouais.
D'après les images, hein, simplement, et d'après ce qu'ont dit les pilotes, Button l'a souligné, il a simplement pas vu arriver Hamilton. Bon, ça, c'est juste un phénomène. Ça n'a rien à voir avec les accidents qu'a causé Hamilton. Et ça, ça y a rien à faire. Il peut dire ce qu'il veut, le petit Lewis. Mais les accidents qu'il a causés à Monaco, c'était radicalement différent de ce qui s'est passé à Montréal.
Absolument, absolument.
En tout cas, deux roues sur le trottoir.
Ouais. Montréal, victoire de Jenson Button. Deuxième, Sébastien Vettel. Troisième, Mark Webber. Voilà. Quatrième, Michael Schumacher, qu'on a longtemps cru en capacité d'accrocher son premier podium depuis son retour.
Il y a un moment, j'ai cru qu'il y avait eu une fêlure dans l'espace-temps. Quoi. Quand j'ai vu Schumi attaquer Vettel pour prendre le commandement de la course, je me suis dit, mais on est en quelle année là?
Eh bien, on était en 2011, mon cher Bruno. Comme quoi, Schumi, il a encore quelques beaux restes. La voiture sur la fin de course était moins performante que les autres, donc il a dû bien se contenter d'une quatrième place. Gilles, quand même, Jenson Button, on le connaissait bon stratège, bon coup de volant. Là, il s'est montré un peu agressif, ce qu'on lui reproche souvent d'ailleurs, de manquer d'agressivité. Et là, il s'est frotté avec Hamilton, s'est frotté avec Alonso, et puis à la fin, il a tellement poussé qu'il a mis, il a poussé Vettel à la faute.
Ouais, hein, je crois que c'est
dans le dernier tour d'ailleurs.
C'est la victoire de l'intelligence en fait. C'est l'intelligence de course en fait, Button. Il sait percevoir les moments où il faut prendre des risques et les moments où il faut plutôt faire le dos rond. Et là, sur la fin de course, il a compris qu'il avait la voiture pour aller chercher Vettel, parce que Vettel sort effectivement dans les dernières minutes de course, mais il sort parce qu'il voit que Button est en train de revenir et qu'il est obligé de pousser sur une voiture qui a des pneus qui sont vraiment encore usagés et il part à la faute en essayant de résister, mais de toute façon s'il ne sort pas il se fait rattraper par Button, donc il a joué le va-tout. Il a un petit peu de réussite de prendre la deuxième place et il fait quand même une bonne opération en prenant cette deuxième place. là il y a des perdants et c'est pas Vettel hein, c'est Hamilton.
Plus, voilà, il fait d'autant plus une bonne opération qu'Hamilton ne termine pas
et qu'Alonso non plus.
Non plus, ouais, là il y a deux gros perdants, Hamilton Alonso. Alors, là c'est
pour ça que quand Vettel disait non, faut pas y aller, faut pas repartir, maman j'ai peur, je sais pas comment ça se dit en allemand. Bah il avait tort hein, parce que il aurait marqué que 12 points, il en marque 20.
En tout cas, mon cher François, il y a une écurie qui a fait quand même chou blanc alors qu'on était plutôt content de leur retour aux avant-postes. Oui, c'était chou rouge même. C'était Alonso et Massa qui étaient en première et deuxième ligne sur la grille. Et au final, il y a personne. Enfin, Felipe Massa réussit quand même à prendre la sixième place. Mais pour Fernand, il y a rien.
Bah oui, ça s'est terminé en équilibre
sur le vibreur,
sur un vibreur.
La position la plus idiote.
Position pour un pilote. Hein, franchement,
c'est terrible.
Alors là, en équilibre comme sur une balançoire, c'est franchement ridicule. Mais voilà, rien à faire quoi. Donc pour revenir sur Button, parce que cet incident a été causé par Button aussi. Mm-hmm. Bon là encore une fois incident de course puisque Button prend l'intérieur, Alonso se rabat pour reprendre la trajectoire. Bon, chacun défend sa position. Incident de course, tort partagé. Bon, rien à dire. En ce qui concerne Button, il a fait, je pense, la course de sa vie. Avec des hauts, des bas, des hauts à nouveau. C'était absolument incroyable. Il a quand même pris un drive-through qui lui a fait perdre grosso modo 20 secondes.
Ouais, je crois qu'il fait 6 passages au stand en tout. Enfin, c'est voilà. Juste colossal. 6
passages au stand. Et malgré tout, il revient, il avait effectivement la voiture pour ça, mais il a fait absolument la course de sa vie, des dépassements d'enfer. Et si Vettel, en effet, panique un peu, parce que c'est grosso modo la sortie de Vettel, c'est de la panique,
ah oui.
il sent revenir Button qui est flying, comme disent les Anglais. Et c'est aussi à cause du DRS, parce qu'il sait très bien que dans les dernières lignes droites du circuit, sa sortie se passe dans le dernier tour, dans les dernières lignes droites du circuit, avec le DRS, Button va le manger de toute façon. Et ouais. C'est pour ça que le petit Vettel se met un petit peu dehors. Voilà, explication de ça. Pour Ferrari, en revanche, bon, week-end qui se termine pas très bien alors qu'il avait bien commencé.
Ouais,
dommage quoi, mais ça me prouve aussi quand même que les Ferrari... en termes de performance, sont en train de revenir au niveau.
Alors on le disait, quatrième Schumacher, ça c'est plutôt pas mal. Cinquième, Vitaly Petrov, le Russe à bord de sa Lotus Renault qui fait un bon Grand Prix au final, avec l'ami Heidfeld qui était bien parti. Alors j'ai vu Monsieur Kobayashi qui termine septième de cette épreuve sur sa Sauber Ferrari.
Qui a failli terminer deuxième quand même.
Ouais. Et alors Kobayashi, il a une technique assez particulière. Ça fait quand même 2-3 Grands Prix on le voit faire. Quand on le suit d'un peu près, il a tendance à changer le lieu de freinage. Hein. Il freine pas à 100 mètres, mais à 98.
En l'occurrence, pour parler de l'incident Kobayashi-Heidfeld, c'est à la sortie du...
Ouais, il n'a pas accéléré.
Et au lieu d'accélérer, il est à l'arrêt. Et du coup, Heidfeld ne peut absolument pas l'éviter. Et poum, son aileron, il passe et voilà, il sort dans le virage suivant.
Moi, ça m'a quand même inspiré. Bon, au-delà du fait de la pratique de Kobayashi sur ce coup-là, je pense que de toute façon, avec les datas, on finira par avoir le fin mot de l'histoire et je pense qu'il sera réprimandé. Je me demande quand même si, en termes de sécurité, on ne devrait pas imposer des normes de solidité, de résistance un peu plus élevées à l'aileron avant, parce que juste un petit choc, c'est pas un choc énorme.
Non,
c'est juste un petit choc.
C'est faiblard, c'est vrai.
Ça peut prendre des proportions qui sont énormes parce que les conséquences, elles sont tout le temps les mêmes. Le support de l'aileron se casse. Dès qu'on réaccélère avec le poids, comme ça met du poids sur l'aileron, l'aileron passe sous les roues et à ce moment-là, la voiture, c'est un chariot sans roue avant directrice.
Exact.
Et s'il y a du monde devant, s'il y a un mur en béton, s'il y a n'importe quoi, le pilote est totalement passager. Là, Heidfeld avait encore un minimum de direction. Il a réussi, avec de la réussite et avec un petit peu d'expérience, à
rester le long du mur, ouais, à éviter. Ouais.
Mais je pense qu'on devrait sérieusement s'interroger là-dessus parce que c'est un cas de figure qui arrive très régulièrement, ouais. Et jusque-là on est passé à côté de gros accidents. C'est pas compliqué de faire des ailerons qui soient un peu plus solides. Ils seront un peu plus lourds, mais si c'est la même chose pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faudrait un petit peu y réfléchir.
Mais là-dessus, pour la solidité,
François,
ils peuvent s'adresser à Audi, parce que Audi a fait effectivement des crash tests grandeur nature.
Ah,
et
oui.
Point de vue solidité, il n'y a pas mieux. Hein.
Ouais, mais là, c'est la crashbox. On ne parle pas de l'aileron
en tout
en
cas,
elle-même.
Ouais, il convient de noter cela aussi, c'est que là, en endurance, les cellules des pilotes de survie sont vraiment remarquablement faites et étudiées, comme en F1 d'ailleurs.
Bah là, clairement, si on revient au Mans, il y a au moins deux pilotes grièvement... Enfin, oui. Rockenfeller, je ne vois pas comment il aurait pu s'en sortir il y a encore 15 ans de cela.
C'est clair.
Il y a 10 ans. Hein,
ouais, ouais. Pour McNish, c'est pareil. Aussi, c'est fort. Hein, c'est fort. Ouais. Hein, c'est des gros impacts.
En tout cas, pour ce qui est de la Formule 1 et de la 7e épreuve du championnat du monde, c'était le Grand Prix du Canada à Montréal. Sébastien Vettel battu dans le dernier tour par Jenson Button. Donc Button, Vettel, Weber. Ça, c'est le trio sur le podium. Et au championnat du monde, Sébastien Vettel dispose maintenant de 161 points, soit 60 points d'avance sur Jenson Button, 60 points d'avance.
Ça va donc être payé en juillet, voilà. Au moment des vacances, ça tombe bien.
Troisième de ce classement, c'est Mark Webber avec 94 points. Lewis Hamilton est quatrième, 85 points. Hamilton et Alonso, on le disait, les grands perdants de ce week-end, puisqu'Alonso est désormais à 69 points. Vous imaginez, quasiment 100 points de retard sur Vettel. Autant dire que ça se complique. Voilà, ça c'est pour le classement chez les constructeurs. Red Bull est leader, bien évidemment, de 155 points devant McLaren 186, Ferrari 101, Lotus, Renault 60, Mercedes 52. Le prochain rendez-vous, messieurs, en Formule 1, c'est la semaine prochaine. Grand Prix d'Europe, c'est à Valence. On va rouler entre les...
Mon Dieu, c'est la course sur le parking.
Oui, c'est la course sur le port de Valence, entre containers et cargo tout pourri. Ça va être super.
C'est bien, parce que s'il y avait un award, comme on dit maintenant, du circuit le plus moche de toute la saison, ils l'ont facile.
Non seulement, non, là, ils ont réussi avec ce circuit à faire un circuit qui est moche dans une ville, Valence, qui est quand même très joli, il faut quand même le rappeler. Donc là, déjà, exploit. Et en plus, un circuit qui est inintéressant. À la rigueur, ça serait moche, mais
le
circuit serait intéressant. Bon, bah tant pis, on n'est pas là pour faire de la peinture. Mais là, ils ont réussi à faire les deux, c'est quand même énorme, bravo.
Ah ouais, là, c'est moche et en plus, on s'emmerde. Pardon.
Mais on continue d'y aller.
J'espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que si c'est aussi long qu'au Canada, laisse tomber. Hein.
Ouais.
Valence pendant 4 heures sous la pluie.
Ça va être un peu ennuyeux. Les garçons, des petites infos au passage quand même. On a une vague approche du calendrier 2012, puisque l'on y a réintroduit. Alors après l'annulation définitive et complète du Grand Prix de Bahreïn pour la saison 2011, en 2012, on ouvrira à Bahreïn, normalement.
On n'ouvrira pas donc à Bahreïn.
On ira à Bahreïn ou pas. Ensuite, il y aura l'Australie, la Malaisie, la Chine, la Corée du Sud. Donc, grande balade du côté de l'Asie en ouverture de la saison. Ensuite, il y aura Turquie.
C'est marrant, mais là, la première partie du calendrier, elle me paraît cohérente. C'est incroyable.
Ouais. Alors ensuite, il y aura la Turquie, mais c'est même pas sûr, hein, parce que...
Ouais, c'est probablement celui qui va sauter dans les Grands Prix, puisqu'il doit y en avoir 20, pas 21.
Ouais. En plus, il y a 17 spectateurs cette année recensés en Turquie. Il y aura l'Espagne, Monaco, Montréal. Ah, on ira donc le 10 juin à Montréal et on enchaînera une semaine plus tard avec le Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. Et puis retour en Europe avec Valence à nouveau, Grande-Bretagne, Allemagne, Budapest, Belgique, Italie. Et ensuite, on repart à l'autre bout du monde, Singapour, Japon, Inde, Abu Dhabi. Et ça se terminera le 25 novembre 2012 au Brésil, c'est Sao Paulo.
Le Grand Prix de France, t'as dit, c'était quand ?
Le 29 février.
Ah mais d'accord.
Pas une année bisextile.
Le 31 février, mon cher Bruno.
Une année bitextile, oui. Ouais.
Non, la prochaine année bisexuelle, c'est 2014.
Et puis alors, dernière autre petite info que je voulais vous faire commenter, messieurs. Ça a l'air un peu compliqué d'imposer aux écuries un moteur 4 cylindres. Hein. Là, 2013, ça commence à ronchonner parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, techniquement, tous les grands constructeurs savent faire, mais entreprendre un tel chantier, ça va leur coûter un paquet de pognon, hein, François.
Bah, ça va leur coûter un bras, oui, c'est clair. Mais en tout cas, déjà sur le principe, il y a trois motoristes qui sont contre le projet de moteur 1 litre 6 turbo. Le quatrième, c'est Renault, qui au contraire pousse à 100% pour le développement l'instauration de ce moteur, dans la mesure où c'était la condition sine qua non pour Renault de rester en Formule 1. avec la direction, la grande direction de Renault, c'est-à-dire Carlos Ghosn. À partir du moment où ce moteur n'est plus ne serait plus imposé en Formule 1, Renault se pose la question de rester ou de partir, et plus probablement d'abandonner la Formule 1.
Ouais, enfin en même temps chez Renault, ils savent pas ce qu'ils font à 3 mois, donc voilà. Et puis bon, Monsieur Ghosn et la Formule 1, on peut pas dire que ce soit un mariage très réussi.
On espère rien surtout.
Bah oui, on espère malgré tout pour tous
il
les
gens.
Il attend
toujours qu'on lui dise que la saison 2009 est finie
ou qu'elle démarre, on sait plus. En tout cas, c'est à suivre quand même parce que c'est l'avenir de la Formule 1, et on verra ce que cela donne. En tout cas, moi j'ai retenu une chose de ce week-end très riche en information, et notamment pour le sport auto, c'est qu'on avait pris des décisions pour le rallye. Manifestement, Jean Todt se bagarre très fort pour que le rallye progresse, puisque le Monte Carlo revient, messieurs, hein, n'oublions pas de le dire, le Monte Carlo revient au championnat du monde 2012.
Avec un nu du Turini conservé.
Voilà, donc ça veut dire que Jean Todt, fan de rallye, c'est déjà pas mal battu pour qu'au moins ça avance de ce côté-là. On sait aussi que, par exemple, l'an prochain en Argentine, sans doute aura-t-on un rallye un peu différent du format que l'on connaît aujourd'hui, avec ce rallye qui revient toujours au même point. L'an prochain, on dit qu'en Argentine, on pourrait partir d'un point A, et finalement l'arrivée, ce serait à un point B sans jamais revenir sur ses pas. Ça, c'est aussi un retour vers les rallyes du passé. En tout cas, la tradition revient. Il s'est beaucoup battu pour l'endurance, il y aura un championnat du monde. En revanche, j'ai l'impression que sur la F1, il ne va pas forcément avoir son mot à dire, parce qu'il y a quand même encore Bernie qui fait la pluie et le beau temps avec ses copains. Hein. Parce que vous en pensez, clair. Hein, François,
c'est bien résumé. Ça, le résumé est exact, Christian. En F1, il a peu de marge de manœuvre, voire zéro, dans la mesure où Bernie prend toutes les décisions. Quand Jean Todt essaie de faire quelque chose en Formule 1, dans la minute qui suit, Bernie lui dit non, ça ne marche pas, c'est comme ça et pas autrement, et tu la fermes. Voilà.
Ouais, je pense que politiquement, c'est intéressant, enfin, c'est intelligent. Il commence les chantiers là où il sait qu'il peut intervenir, et ça va probablement se traduire par des réussites, et une fois que ça aura réussi, il aura beaucoup plus de poids pour éventuellement briguer un autre mandat sur le bilan de ses premiers chantiers, ou alors pour mettre un peu plus de pression pour essayer de ramener la F1 dans des sphères un peu plus normales. Bon,
d'autant que Bernie, même s'il m'énerve souverainement, je lui souhaite pas de mal, mais il n'est pas éternel non plus. Hein.
Non, puis là, il est moins éternel que nous, je dirais quand même. Hein. Bon, allez. Les garçons, on reparle Formule 1 la semaine prochaine, évidemment, avec le Grand Prix de Valence. On reparlera de toutes ces disciplines. Et tout de suite, on va changer de chapitre.
RTL L'Équipe, la moto.
Nous avons été bavards, mais c'est vrai que l'actualité du sport auto était riche ce week-end et la semaine
dernière. Ah oui, comme d'habitude, c'est la moto qui empathie.
Je suis désolé. Mais en tout cas, Gilles, il s'est passé des choses. À Silverstone, il pleuvait déjà.
Oui, c'est pas l'événement du week-end.
C'est pas l'événement.
Non, l'événement, c'est qu'il s'est arrêté de pleuvoir un moment pendant la journée.
Et Casey Stoner s'est imposé en MotoGP devant. Alors là, franchement, celui qui a trouvé le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone en MotoGP, il est pas mal quand même. Parce que Stoner, Dovizioso, Edwards, fallait le trouver.
Oui, alors Dovizioso.
Racontez-nous un peu.
Dovizioso, on sait qu'il est très fort sur la pluie.
Il est bon.
C'était pas très très étonnant. Colin Edwards, une semaine après sa clavicule cassée à la tienne, François. une semaine après sa clavicule cassée.
Merci, à votre santé.
Donc c'est quand même très fort. L'événement en MotoGP, c'est que Jorge Lorenzo a chuté. Et qui perd la première place du championnat. Donc voilà le tournant. Jusque-là, il avait réussi, avec une machine un petit peu en retrait, à bien se sortir des différents contextes de chaque course, et à pour l'instant être en tête du championnat. Là, cette fois, il est tombé, et Stoner est passé en tête, et maintenant, qui sait s'il pourra le reprendre.
Alors, Stoner, leader du championnat, 116 points devant Jorge Lorenzo, 98, Dovizioso, 83, Rossi, 68. Et puis, alors, pendant qu'on parle MotoGP, Monsieur Pedrosa réopéré à nouveau, ce qui pourrait compromettre évidemment la poursuite de ses activités, au moins dans les prochaines semaines, Gino.
J'ai pas souvent l'habitude de me lancer des fleurs, mais je me souviens que quand il s'était cassé la clavicule au Mans, et on avait dit non, il roulera, de toute façon, c'est une clavicule. véhicule, c'est une plaque et quelques vis. Quand on a appris qu'il allait pas rouler, j'ai dit, mais non, mais là, il y a autre chose, parce que c'est pas possible que pour une clavicule, voilà, on voit bien que la situation était bien plus compliquée que ce qu'on a bien voulu nous dire au départ, et qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière tout ça.
Du côté de la Moto 2, Bradle s'est imposé devant Smith et Pierrot et Jules Cluzel qui est revenu un petit peu là aux affaires, mon cher Gilles, Jules Cluzel qui accroche une quatrième place et bon, ça lui permet pas de revenir sur les meilleurs au classement du championnat du monde, mais bon, petit à petit, il revient un peu dans l'allure et c'est plutôt pas mal de le retrouver à cette place.
Hein. Ouais, il est en train de retrouver un petit peu ses marques. Il a reçu aussi pas mal d'aide du fournisseur de châssis Suter qui jusque-là l'avait un petit peu laissé dans le désarroi. Là, on est venu lui donner un peu plus d'informations et il recommence à avoir un fonctionnement de machine qui est plus logique, c'est-à-dire que quand on intervient sur les suspensions ou sur un réglage quelconque de la machine pour lui donner plus de souplesse, plus de stabilité, la machine répond dans le sens où l'on veut. Alors que parfois, depuis le début de la saison, on cherchait quelque chose, on allait dans une direction et ça partait complètement à l'inverse alors que ça n'avait pas lieu d'être. Donc il était un petit peu perdu. Là, ça revient dans le bon sens. C'est important parce que l'équipe de Jules Cluzel a annoncé qu'elle arriverait en MotoGP l'année prochaine avec une moto. Donc il y a une chance pour que ce soit pour lui.
Ben oui.
Mais il faut montrer tout de suite qu'on a les épaules.
Et puis, autre jolie performance française, messieurs, en 125, c'est encore Johann Zarco, deuxième à nouveau. Alors bon, il avait quasiment gagné en Espagne. Il a un peu poussé.
Il a passé le premier la ligne.
Ouais, on l'a rétrogradé de façon assez injuste. Soyons clairs. Alors non, mais qu'il soit
sévère.
Rétrogradé,
sévère.
D'accord.
Injuste.
C'est pas injuste, c'est sévère. Qu'on lui fasse perdre tout le bénéfice de cette course magnifique. Au moins, on pouvait lui accorder le podium et la deuxième place. Hein,
je crois que c'est pas le plus important. Il a compris qu'il était capable de gagner et là il s'est
Il l'a confirmé. Là,
pour,
il l'a confirmé.
Pour la
à Silverstone.
Victoire, voilà. Et bon, Folger, on le sait, c'est un extraterrestre sous la pluie. Mm. Il a longtemps résisté. Il finit deuxième. Il fait une belle opération.
Il est à 4 secondes seulement hein, au terme de l'épreuve.
Ah oui.
C'est
il a lâché dans les derniers tours parce qu'il savait qu'il n'irait pas chercher Folger. Mais il a fait vraiment une très très belle course. Il s'est passé quelque chose mentalement chez Zarco. Et là, maintenant, il est parti.
Terol est leader de cette catégorie, la 125.
Il a terminé 9e, Terol. Ouais, il était nulle part, aux fraises.
128 points donc pour Terol. Jonas Folger est 2e du classement pilote, 93 points. Et Johann Zarco, 3e, 83 points. Autant dire que l'on va suivre les performances de Johann Zarco, car, ma foi, pas si loin du compte, ça pourrait être chaud bouillant à la fin de la saison s'il continuait à marcher sur ce rythme.
Ouais, et moi je pense sincèrement que Terol sera pas champion du monde. C'est grosse cote, mais voilà, on prend le pari.
Eh bien, on prend le pari, on en reparle dès que possible et très très vite, peut-être la semaine prochaine. D'ailleurs, il n'y aura pas de un Grand Prix la semaine prochaine.
Oui, à Seine.
Ah ben voilà, circuit de motard s'il en est. Hein.
La cathédrale.
Ah voilà. Bon week-end à tous, il est temps de se quitter. Salut François, salut Gilles, salut Bruno, à très très vite pour de nouvelles aventures.
C'est bien.
12h30.
Retrouvez Carrément Moteur en rediffusion cet après-midi dès 15h30 sur RTL L'Équipe.